Bonjour Norbert Navarro.
Bonjour Anthony, bonjour à tous.
À la une de la presse hebdomadaire, le référendum grec qui fait trembler l'Europe.
C'est un film de Nicolas Rey. Sur l'écran, quand il est sorti, il y a 60 ans, une star était née, James Dean, d'un titre, La fureur de vivre. Ce film brossait le portrait d'une certaine jeunesse américaine. Dans une séquence passée à la postérité, deux conducteurs se lançaient un défi. Foncer, pied au plancher vers une falaise, le premier qui freine a perdu. La fureur de vivre, c'est à ce film que Pascal Lamy pense en évoquant la crise grecque dans Challenge, dans les colonnes de l'hebdomadaire. L'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce se veut rassurant. C'est un jeu, dit-il. Simplement, Alexis Tsipras, en accélérant, a fait monter la probabilité que l'accident se produise. Dans le journal du dimanche, le même Pascal Lamy dit que la Grèce a besoin d'un plan Marshall, du nom du programme massif de dépenses publiques injectées en Europe au sortir de la guerre à l'initiative du secrétaire d'État américain de l'époque, le général George Marshall. Dans l'Obs, Pascal Lamy, encore lui, passe sans transition du cinéma à la philosophie et à la psychanalyse. En parlant de la construction de l'Europe, il remarque « Le docteur Montesquieu nous dit qu'on a tout bon, mais en pratique, on s'aperçoit que ça ne marche pas et qu'il faut aller aussi consulter le docteur Freud, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur le psychisme, les sentiments, les passions et donc pas seulement sur les organes et sur la raison. Vite, un divan donc pour sauver l'Europe dont l'avenir se joue à Athènes. C'est du moins le journal Le Monde qui le clame en manchette dans un titre alarmant qui ouvre un cahier de 18 pages consacré à la crise grecque, à l'attention des lecteurs qui auraient raté les épisodes précédents, sans doute.
On croyait avoir tout lu, mais ce matin, Norbert, il y a du neuf dans la presse sur le sujet.
Oui, un sondage, Odoxa, pour le Parisien dimanche, selon lequel le référendum grec est largement approuvé par les Français. Pour 78% des sondés, ce référendum va permettre au peuple grec de prendre une décision démocratique sur son avenir. Tsipras, c'est donc l'homme qui joue avec le feu, lance le Parisien dimanche. Le bord de la falaise s'approche à grande vitesse et le Premier ministre grec a volé la vedette à James Dean. Tandis qu'à tombeau ouvert, les bolides foncent vers le précipice, l'hebdomadaire Politis dénonce le silence coupable de la France dans cette affaire et souligne la responsabilité de Paris qui sera jugée en regard des conséquences de la crise sociale qui menace. Point fermé, martelant son propos, Alexis Tsipras est également à la une de l'Humanité dimanche. Patelin, l'hebdomadaire communiste, s'interroge. Si les autorités européennes et tous les perroquets médiatiques sont si sûrs de leurs faits et de leurs bienfaits, pourquoi ont-ils si peur de l'expression populaire ? Résolument à côté du peuple et du gouvernement grec, l'Huma dimanche prédit la première défaite historique de ceux que le journal regroupe sous l'appellation de représentants de la finance, qui, selon lui, ont montré à l'Europe prétendument solidaire leur visage hideux.
Après les attentats de la semaine dernière en France, en Tunisie, au Koweït et en Somalie, l'organisation État islamique est bien entendu à la une de la presse hebdomadaire, Norbert.
À la une de l'Express et du journal Le Point. Pour le premier, la guerre contre Daesh est désormais totale. Pour le second, l'émir de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, le cerveau de l'État islamique avec sa barbe poivre et sel en couverture du poing, c'est l'homme qui fait la guerre au monde. Après la décapitation en France d'Hervé Cornara, l'Express met en garde. Contrairement aux apparences, énonce l'hebdomadaire, l'idéologie de Daesh est sophistiquée. Avec sa barbarie affichée, elle repose sur la décérébration et le besoin de rattachement du perdant radical. C'est ainsi qu'à la différence d'Al-Qaïda, explique encore l'Express, Daesh recrute non pas des combattants qui se cachent dans les vallées afghanes ou dans le Sahara, mais des citoyens qui se rendent à leur travail tous les matins jusqu'au jour où ils passent à l'action. Autant dire qu'ils sont indécelables, souligne le journal. Ces nouveaux fous d'Allah ont en effet des profils moins faciles à repérer, complète l'Express, entre fragilité psychologique et crise identitaire. C'est le cas du tueur de l'usine en France, mais aussi de celui qui a massacré des touristes sur une plage en Tunisie, que l'on aperçoit sur une double page de Paris Match, se promener tranquillement sur le sable, Kalachnikov dans une main, grenade dans l'autre, puis gisant 5 pages plus loin, face contre terre, dans son sang, après avoir tracé son sillage de celui des touristes qu'il vient de massacrer avant d'être abattu. Le Point, lui aussi, s'intéresse à ces nouveaux nihilistes, représentants d'une génération désemparée et fascinée par l'État islamique. Vrais parias et potentiels futurs bourreaux, ces jeunes voient leur vie cadencée en 3 temps par Le Point. Pas de boulot, corruption endémique, le mot « espoir » banni du vocabulaire. Mais qu'on ne s'y trompe pas, prévient l'Express, ces tueurs potentiels tapis dans l'ombre ne sont pas des loups solitaires. Au Moyen-Orient, il y a toujours un donneur d'ordre et un principe, centralisation de la décision et décentralisation de l'exécution.
Justement Norbert, parmi les armes utilisées pour contrer le terrorisme, il y a les écoutes des communications internationales et dans ce domaine, la France est active.
Selon l'Obs, depuis début janvier 2008, Paris a mis en place une vaste entreprise française d'espionnage. L'hebdomadaire révèle les grandes lignes du premier plan d'interception des câbles sous-marins en France, lancé en secret par Nicolas Sarkozy et qui vient d'être légalisé par François Hollande. L'exécution de ce plan a été confiée à la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, à savoir les services secrets français pour faire court. La première station clandestine d'interception a été mise en service à Marseille en 2008 pour espionner le câble reliant Singapour via Annaba, Le Caire et Jeddah, détaille l'Obs. Puis d'autres bretelles ont été installées sur 5 autres câbles majeurs, notamment à Saint-Valery-en-Caux en Picardie, nord-ouest de la France, mais aussi à Penmarc en Bretagne, où un câble sous-marin relie l'Europe à l'Afrique de l'Ouest. Le support idéal pour surveiller les anciennes colonies, quelle idée !
Merci Norbert Navarro sur RFI.